on termine cette émission comme chaque jour avec En Compagnie des Revues. Et en compagnie aujourd'hui du magazine L'Œil avec son rédacteur en chef qui nous fait le plaisir de nous rendre visite, Fabien Simode, bonjour.
Bonjour.
Alors le magazine L'Œil consacre sa couverture aux très nombreuses expositions de la rentrée.
Et oui, c'est un véritable phénomène de société. De plus en plus nombreuses depuis les années 80, les expositions sont devenues le cœur de l'activité des musées. À tel point que, comme pour la littérature, elles ont leur saisonnalité. Pendant que l'automne voit déferler une avalanche d'ouvrages estampillés rentrée littéraire, les musées, eux, vernissent leurs expositions labellisées expositions de la rentrée. Et cette année, la rentrée est exceptionnelle. Dans le magazine d'art L'Œil, nous recensons ce mois-ci une cinquantaine d'expositions qu'il ne faut absolument pas manquer de voir cet automne. Rien que cette semaine, les auditeurs ont le choix entre plusieurs affiches, dont du douanier Rousseau à Séraphine, les grands maîtres de l'art naïf au musée Mayol, Mondrian figuratif au musée Marmottan-Monet et Francis Bacon au centre Pompidou. Alors, je ne m'attarderai pas sur Bacon, à qui vous consacrerez bientôt une série d'émissions dans la Compagnie des œuvres. Quelques mots en revanche sur Mondrian. C'est un petit bijou, moins de 70 œuvres, dont la moitié de chefs-d'œuvre. Piet Mondrian, vous savez, c'est ce pionnier de l'abstraction qui, au début du XXe siècle, a peint des tableaux composés d'aplats géométriques de couleurs rouges, bleu et jaune. Et bien là, le musée Marmottan nous dévoile un autre Mondrian peu connu, un Mondrian figuratif peignant des femmes, des moulins et même des fleurs dans lesquelles on mesure l'influence de Vincent van Gogh. Cette exposition pleine de lumière et de couleurs fait autant de bien aux yeux qu'à l'esprit, c'est pourquoi je vous la recommande chaudement.
Oui, on va y aller et puis on attend aussi, évidemment Fabien, la grande exposition Léonard de Vinci.
Ben oui, vous avez raison Mathieu, c'est l'événement de l'année, peut-être même de la décennie. L'exposition Vinci ouvrira le 24 octobre au Louvre. Alors attention, elle ne sera accessible que sur réservation en ligne. Car le musée du Louvre attend une affluence record, l'exposition n'ayant pas eu d'équivalent à Paris depuis 1952. C'est véritablement le premier accrochage qui a l'ambition de raconter la vie de Léonard à travers plus de 163 œuvres, essentiellement des dessins et des manuscrits, le corpus de Vinci comportant moins d'une vingtaine de peintures authentifiées. Ceux qui n'auront pas la chance de voir cette exposition pourront toujours se rabattre sur les rétrospectives très attendues de Toulouse-Lautrec et du Gréco au Grand Palais. Il faut savoir, entre parenthèses, qu'il s'agit là aussi de la première grande exposition en France du Gréco.
On parlera aussi du Gréco.
En dehors de Paris, la programmation n'est pas moins alléchante avec une exposition Goya et ses élèves à Agen, une rétrospective du peintre Vladimir Velikovitch qui vient de nous quitter en Bretagne, ainsi qu'une exposition Charlie Chaplin et les avant-gardes à Nantes.
Donc des expositions absolument partout. Est-ce que ça n'est pas sans poser quelques problèmes tout de même Fabien, toutes ces expositions?
Oui, des problèmes d'ordre écologique. Dans une enquête signée Isabelle Manca que nous publions donc ce mois-ci dans L'Œil, ce mois-ci nous mesurons le bilan carbone des expositions. Et ce bilan n'est globalement pas bon. La Bibliothèque nationale, par exemple, chiffrait en 2007 les déchets liés à sa programmation à 16 tonnes, car la scénographie, les cimaises et les vitrines terminent le plus souvent à la benne. Chaque année, c'est l'équivalent de plusieurs forêts suédoises qui passent dans les expositions. Mais le volet le plus prodigue, nous dit Isabelle Manca, en matière de rejet de CO2, reste le transport, car le succès d'une exposition dépend de quoi ? Eh bien de sa capacité à rassembler le plus gros nombre de pièces, si possible venues de très loin. Prenons l'exemple de l'exposition Toulouse-Lautrec. Plus de 200 œuvres seront réunies au Grand Palais. Quelle chance ! C'est vrai. Sauf que si beaucoup de tableaux appartiennent aux collections françaises, un grand nombre d'œuvres viendra de Chicago, Moscou, Sao Paulo, Copenhague, Budapest. Même chose pour l'exposition Bacon, au centre Pompidou, dont la moitié des œuvres a fait le voyage depuis l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suisse, etc. Et devinez comment elle voyage, ces œuvres ? Eh bien en avion, ce qui n'est pas le moyen de transport le plus écologique. Alors, le tableau n'est pas tout noir et le dossier de L'Œil fait mention d'initiatives qui, des musées de Strasbourg à ceux de la ville de Paris, témoignent d'un début de prise de conscience. Mais ces initiatives sont encore trop rares et montrent que les musées doivent faire leur révolution écologique.
Et nous, on doit planter un arbre avant d'aller voir chacune des expositions qu'on souhaite visiter. Merci beaucoup Fabien.